Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Richard Fonder, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos émissions. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux semaine après semaine et à réagir sur nos réseaux sociaux. Je n'oublie pas un petit coucou à Pauline qui va revenir très vite à mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission. La fine équipe, Guillaume Dozinel, dirigeant et associé de GFIP, et Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui nous recevons Louis Gabriel de Causan, président de Capcar. Bonjour Louis Gabriel.
Bonjour Richard.
Ah, vous avez suivi des études d'ingénieur à Polytechnique, mais aussi à la London School of Economics. Après quelques mois au sein de la Légion étrangère, ça faudra nous raconter rapidement, en Guyane française, le truc le plus simple. Changement total de décor, vous intégrez le Boston Consulting Group et vous faites 4 ans en conseil là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé entre la Légion, Boston Consulting Group?
Le passage en Légion, c'est dans le cadre des études à Polytechnique, où on a un an à faire dans l'armée.
Et mais pourquoi la Légion étrangère? Parce que
je voulais, il y avait plus simple. Pour prendre les termes utilisés dans ce cadre-là, je voulais l'expérience la plus péchue.
D'accord.
C'est-à-dire la plus intense possible. Et donc, c'était effectivement le cas, la Légion étrangère, une arme d'élite. Très intéressante également parce que composée de personnalités venant du monde entier, avec des histoires à chaque fois singulières et souvent extraordinaires. Donc, c'était une immersion très intéressante et avec une mission qui était la lutte contre l'orpaillage illégal réalisé par des clandestins venant soit du Suriname, soit du Brésil.
En Guyane, là-bas, ouais.
Donc, c'était vraiment le jeu du chat et de la souris. Donc c'était une très belle expérience, intense et exigeante, chose que j'ai retrouvée dans un autre cadre plus feutré,
dans le conseil
auprès du CAC 40 en étant effectivement consultant au Boston Consulting Group. Mais voilà, c'est cette recherche de peut-être d'excellence, de dépassement de soi qui m'a poussé dans ces deux expériences différentes dans lesquelles j'ai beaucoup appris.
Et alors en 2015, vous décidez de créer Capcar, premier réseau d'agents automobiles indépendants. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors c'est un nouveau métier qu'on a créé. Notre activité, c'est un peu la même activité qu'un agent immobilier, mais appliquée aux voitures d'occasion. Donc notre métier, réalisé par les agents indépendants Capcar qui composent notre réseau, c'est d'aider les particuliers à vendre ou acheter des voitures d'occasion entre particuliers pour offrir une alternative, d'une part à la concession, où c'est pratique, mais où en tant que vendeur et en tant qu'acheteur, on perd pas mal d'argent.
Ouais.
Et une alternative de l'autre côté, à se débrouiller tout seul à l'achat ou à la vente sur un site d'annonce comme Le Bon Coin, par exemple, avec tous les risques associés. Donc l'idée, c'est d'offrir une alternative sécurisée, simplifiée et économiquement intéressante pour les particuliers.
D'accord. Pourquoi ce secteur? Comment vous y êtes venu?
Alors, c'est avant tout l'envie d'entreprendre. J'avais ces fourmis dans les jambes quand j'étais au BCG. Et pourquoi la voiture? Parce que c'est finalement un des deux biens les plus chers qui impactent la vie d'un ménage. On a l'immobilier, on a l'auto. Et j'ai senti à cette époque que c'était un marché sur lequel il y avait vraiment des frustrations, des besoins côté client qui n'étaient pas adressés. Et j'ai senti que la technologie à ce moment-là, le digital, permettait de faire évoluer, de mieux répondre à ces besoins. Donc je me suis lancé sans forcément avoir de connaissances particulières de ce secteur.
Bon, vous êtes combien maintenant?
Alors, on a un réseau d'agents indépendants d'environ 400 membres,
ah oui,
en forte croissance. Et au siège, nous sommes une quinzaine de salariés.
Chiffre d'affaires, on peut savoir?
On a fait 10 millions d'euros en 2025. C'est un petit x3 par rapport à l'année passée. Et on projette de faire au moins x2 sur 2026.
Pas mal. Damien?
Bonjour, je suis très impressionné. Mais comment vous faites pour piloter une entreprise qui est en hyper croissance sans perdre le contrôle sur la marge, la trésorerie ou même juste la qualité des prestations de vos différents agents? Parce que d'un coup, on triple le chiffre d'affaires, on change un peu d'environnement et d'échelle, quoi.
Ouais, y a deux fibres très importantes dans notre ADN qui permettent de faire face à ces enjeux. La première, c'est le digital. On est culturellement, on vient du digital, 50% de notre effectif au siège, ce sont des développeurs informatiques, des ingénieurs. Donc la moitié de nos efforts, de notre temps, est passé à développer les bons outils pour assurer la qualité, pour assurer la scalabilité, donc la capacité à faire x3 avec une qualité non pas égale, mais même supérieure. Donc c'est vraiment un investissement massif, on a investi au total plus de 10 millions d'euros ces dernières années dans nos outils technologiques. La deuxième composante de notre ADN, c'est le modèle particulier de ce réseau d'agents indépendants qu'on appelle le MLM, Multi-Level Marketing, qui fait qu'en fait, ce n'est pas le siège qui recrute les agents, c'est les agents qui vont eux-mêmes recruter les agents. Ils ont un incentive financier à s'assurer que ces agents performent derrière. ce sont non seulement nos agents du coup, qui recrutent 100% des nouveaux agents, ce qui nous a permis de faire x3 avec aucun recruteur au siège, mais c'est également ces agents qui forment ces nouveaux agents, qui accompagnent ces nouveaux agents et qui co-animent avec le siège les réseaux d'agents. Donc un agent qui nous rejoint, 2 ans plus tard, il peut avoir 10 filleuls, donc c'est-à-dire 10 agents qu'il a cooptés sous lui, certains d'entre eux ayant commencé à coopter à leur tour, donc il aura des petits filleuls, soit des filleuls de niveau 2, et ainsi de suite. Et on a aujourd'hui des agents qui ont 100 filleuls sous eux et qu'ils ont recruté, formé, accompagné. Évidemment, nous, on outille tout ça, on donne l'exemple, et c'est ça qui nous permet d'avoir fait x3 et de vouloir faire x2 avec en fait une qualité qui ne cesse de progresser et une capacité plus longue aussi à investir dans des outils encore plus chers, à recruter encore plus pour assurer cette qualité et cette croissance qui se passe bien.
Vous êtes trop jeune, mais c'est la stratégie Tupperware en fait. C'est le même principe.
C'est exactement ça. C'est Tupperware.
C'est Tupperware. C'est de l'auto-formation.
Mais c'est ça.
C'est Thermomix. C'est IAD dans l'immobilier. Donc effectivement, c'est tous ces réseaux d'agents indépendants sous ce modèle de marketing de réseau.
Excellent.
Pardon, mais c'est quoi un agent indépendant? C'est un revendeur de voitures?
Alors en fait, c'est un entrepreneur. Donc nous, en fait, notre métier, c'est vu du client particulier, c'est de l'aider à acheter ou vendre une voiture d'occasion entre particuliers. Mais notre premier métier, en fait, au-dessus de celui-là, c'est d'aider des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le commerce de voitures d'occasion. Et ils se lancent sans investissement initial, sans outils, potentiellement sans formation, puisqu'on est là justement pour fournir la formation qui va être dispensée par le siège et les agents du réseau. Et donc, c'est des entrepreneurs qui se lancent sous le statut d'entreprise qu'ils souhaitent et qui vont développer leur entreprise. Donc, on a tous les profils, hein, de la reconversion, des profils qui viennent déjà de l'automobile, de l'immobilier, des cadres dirigeants qui se reconvertissent et qui ont en fait une liberté totale sur le plan financier, une liberté aussi d'organisation de leur temps et des revenus financiers en fait, qui peuvent être extrêmement conséquents pour eux.
Du B2B2C.
Exactement.
Guillaume.
Alors Louis-Gabriel, j'ai 2 questions en fait. Pendant des décennies, le marché automobile était dominé par les concessionnaires. Pourquoi ce modèle historique est-il en train d'être remis en cause? C'est la première question. Et ensuite, pensez-vous que les concessions automobiles existeront encore sous leur forme actuelle dans 10 ou 15 ans?
Alors la première question est plus simple que que la deuxième.
On va se faire des potes.
Première question, alors le modèle de la concession souffre en termes de rentabilité, mais en termes de part de marché, il reste stable. On a, pour faire simple, un petit 50% du marché qui est capté par les concessions et les garages et un petit 50% du marché qui est capté par le particulier à particulier directement sur les sites d'annonces type Le Bon Coin, La Centrale, etc. Et notre métier d'intermédiaire, c'est la seule partie de ce marché qui est en croissance, qui croît environ 30 à 40% par an et qui représente aujourd'hui un peu moins de 3% de part de marché. Donc les concessionnaires souffrent un peu financièrement, mais gardent leur part de marché. Parce que la tendance de fond, et ça va répondre à la deuxième question, la tendance de fond est quand même qu'un modèle de site d'annonce comme Le Bon Coin, Le Bon Coin, Paris Vendu, La Centrale, etc., qui ont eu des croissances fulgurantes, aujourd'hui se retrouve quand même confronté à une volonté du consommateur d'être plus sécurisé dans sa transaction financière, plus sécurisé dans les échanges. Donc il y a une tendance de fond quand même à soit l'intermédiation, soit l'accompagnement par un professionnel. Donc la tendance de fond est quand même favorable aux concessionnaires. Ce qui est compliqué pour eux, c'est les modifications qu'il y a sur le neuf, notamment sur le véhicule neuf, avec tous les impacts réglementaires, pénurie de matériel, etc., qui font que la situation est compliquée pour eux. Mais la tendance de fond sur la vente de voitures d'occasion est plutôt bonne pour eux.
Damien.
Alors aujourd'hui, vous êtes surtout concentré en France, mais je crois que vous avez déjà prévu une implantation à l'étranger. Voilà. Est-ce que vous pensez que les autres marchés où vous allez seront complètement différents de la France ou finalement c'est réplicable?
Alors, on a cette volonté d'aller rapidement à l'étranger, effectivement. On essaye de quitter un petit peu le x3 annuel pour se dire qu'on va pouvoir le faire sans devenir fou non plus. Mais donc, on vise une bonne croissance en France et de se dégager une capacité d'investissement en termes de temps d'équipe sur un nouveau pays. C'est ça notre priorité. Et il y a plusieurs pays qui peuvent être intéressants. Ils sont tous très différents, mais malgré tout, il y en a un certain nombre qui peuvent être pertinents pour nous, et avec toujours cette particularité qu'on va certes lancer un pays, mais on ne va pas lancer ce pays avec notre équipe de 15 personnes au siège, on va aussi le lancer avec l'appui de tous les agents de notre réseau qui souhaiteront, eux aussi, recruter des filleuls, voire carrément déménager dans le pays qu'on ouvrira. Donc on a cette faculté, je sais que si demain on lance un pays, j'ai J'ai 15-20 agents qui vont prendre leur valise et déménager parce que ça va les tenter, ça va être une aventure entrepreneuriale supplémentaire pour eux, et ils savent que ce seront les pionniers dans ce pays, et donc ils vont pouvoir se construire des business extraordinaires.
Avec ce qui se passe en ce moment en Iran, j'imagine qu'il va y avoir une envolée des ventes d'occasion de voitures électriques. Ou pas? Comment vous voyez la tendance?
C'est plus difficile parce que
ça ne démarre pas, les voitures électriques, en occasion.
Justement, le consommateur aujourd'hui, il est dans une position attentiste extrêmement forte, parce que entre les ZFE, puis la suppression des ZFE, la loi 2035 sur les véhicules thermiques, etc., on n'y comprend plus rien. On attend la prochaine élection présidentielle pour savoir ce qui va se passer. Cela dit, quand il y a un décès, une naissance, un changement de boulot, etc., on est bien obligé d'acheter ou de vendre. Dans ces cas-là, on ne sait pas trop quoi faire. Donc le particulier, globalement, est perdu. Donc la crise en Iran, c'est un facteur de plus, mais qui finalement ne va pas influencer dans une direction ou une autre, qui va juste rendre les consommateurs encore plus perdus. D'accord. Donc globalement, aujourd'hui, les consommateurs sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Mais malgré tout, à un moment donné, parce que c'est tout le temps lié à un projet de vie, à un événement dans la vie, la vente ou l'achat d'une voiture d'occasion, ils sont obligés de le faire. Et donc ils y vont avec leur type en disant « bon, il faut que je fasse quelque chose ».
Louis Gabriel, vous êtes formidable, incroyable. Merci également à vous, Guillaume et Damien, vous êtes très bons aussi. Bon, ça, vous le savez, fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se retrouve jeudi prochain, 14h très précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.